Vous savez, quand je dis cela, en fait, je compte tous les visages qui sont en train de sourire. Et vous n'avez pas à compter tous les... Excusez-moi, il y a un retour dans le micro. Une réverb, ouais, merci. Quand on rentre dans ce genre d'église, on n'a pas besoin de regarder tous les visages qui sourient.
I have a friend in the United States who used to write funny books, so he tried one of them to be funny, expected them to be funny.
Voilà, j'ai un ami aux États-Unis qui auparavant écrivait des livres amusants, à caractère humoristique. Enfin, en tout cas, il essayait de faire en sorte qu'ils soient amusants.
The funniest book he ever wrote was called How to Be Good.
Et en fait, un des livres les plus amusants qu'il ait jamais écrit, c'est Comment être bon.
He knew that was going to be funny because he knew he didn't have a clue how to be good.
Et il savait que ce livre allait être amusant parce qu'il savait que lui, il n'avait absolument aucune idée de comment faire pour être bon. Et tous ceux qui le connaissaient personnellement savaient très bien que ce n'était pas quelqu'un de bon.
Ce
n'est pas tellement que c'était quelqu'un de mauvais, mais il était quelqu'un de moyen en fait.
You know, most people in the world, non-Christians, really believe that they're good.
Vous savez, la plupart des gens dans le monde, eh bien, ils pensent qu'ils sont bons. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela?
They have a very different definition of what it means to be good from the definition that's in the Word of God.
Et ils ont une définition bien différente de ce que c'est que d'être bon que la définition qu'on peut trouver dans la parole de Dieu.
A television company once sent interviewers out onto the street in a large city.
Et un jour, il y a une compagnie de télévision qui a envoyé des journalistes pour faire des interviews dans la rue.
They asked just random passers-by, "Do you think you're going to heaven?"
Et en fait, ils se sont adressés à tous les passants qui passaient par là et ils leur ont demandé, est-ce que vous pensez que vous irez au ciel?
And about 98-99% said yes, of course.
Et à peu près 98 à 99% des gens ont dit oui, bien sûr. Et ensuite, donc, ceux qui donnaient ces sondages leur ont demandé, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le droit d'aller au ciel?
And they all said, well, I'm a good person.
Et donc, chacun, ils ont répondu, mais moi, je suis quelqu'un de bien.
Never killed anybody.
Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais violé personne. Je n'ai jamais cambriolé une banque. Je suis plutôt quelqu'un de bien. Et au ciel, ils seront assez contents de m'avoir. Bon, bien entendu, les chrétiens savent que ça, c'est pas vraiment la bonne réponse. Et nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes bons, mais si nous allons au ciel, c'est parce que Jésus lui-même, il est descendu, il a payé le prix pour nos péchés afin que nous puissions aller au ciel. Et nous n'allons pas au ciel à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que lui a fait.
Romans 3 says we have all sinned and fall short of the glory of God.
Et Romains 3 nous dit que nous avons tous péché et que nous avons tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de la gloire de Dieu.
In Matthew 19, a man approached Jesus and started talking about what is good, about good.
Et
doing good.
Dans Matthieu 19, il y a un homme qui s'est approché de Jésus et qui a commencé à parler avec lui de ce qui était bon, de qui était bon.
And Jesus gave him a mild rebuke and said, nobody is good except God.
Et Jésus lui a fait la repris avec douceur. Et il lui a dit, mais personne n'est bon si ce n'est Dieu. Donc ce livre que mon ami a écrit, Comment être bon, c'était vraiment un livre très, très amusant, très marrant.
I have another publication with almost exactly the same title.
Et il y a également une autre publication avec presque le même titre.
It's called Rules for Holy Living.
Et ça s'appelle les règles pour vivre de manière sainte.
Which, in fact, I guess, is just another way of saying how to be holy.
Et qui, en fait, c'est une autre manière de dire comment être saint.
Which is just about the same thing, I would think, is how to be good.
Et qui, pour moi, ce serait à peu près la même chose que comment être bon.
It's a big title.
C'est un grand titre.
How to be holy, how to be good, how to be free.
Comment être saint, comment être bon, comment être libre.
How to be healthy.
Comment être en bonne santé.
How to be loving.
Comment être quelqu'un qui aime.
How to be all these wonderful good things.
Comment être toutes ces choses merveilleuses.
You would think that a publication like that would be about a meter thick.
Et vous pourriez vous imaginer que une telle publication, elle ferait à peu près un mètre de large.
In fact, the one I have is only 400 words.
Et, mais en fait, moi, celle que j'ai, elle ne comprend que 400 mots.
You could write it out on the back of one sheet of paper.
Et vous pourriez l'écrire au dos d'une seule feuille de papier.
The publisher titled it Rules for Holy Living.
Et celui qui l'a publié l'a intitulé Les règles pour une vie sainte.
And the author is a very, very well-known best-selling author.
Et l'auteur est un auteur de best-seller très très connu.
His name is God.
Et son nom c'est Dieu.
And we're going to read it this morning.
Et donc ce matin nous allons le lire.
And we're going to see if we can learn how to be good.
Et nous allons voir si on peut apprendre à être bon.
Only when we get to heaven will we be good.
Seulement lorsque nous serons au ciel, nous serons bons.
We can't be good here on earth because we're all sinners.
On ne peut pas être bon ici sur la terre parce que nous sommes tous pécheurs.
But we can still know how to be good.
Mais nous pouvons tous savoir comment être bon.
The Bible says that we are saved through no effort of our own, by faith through grace, by grace through faith.
Et la parole, la Bible nous dit que nous sommes sauvés, ça ne vient pas de nos efforts, mais en fait nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi.
But we can make an effort to be good.
Mais nous pouvons faire un effort, nous efforcer d'être bons.
And even though we may fail in this completely, it's good to know how to do it.
Et même si nous échouons complètement à essayer de faire cela, il est bon de savoir comment le faire.
So we're going to take a look at this bestseller.
Donc on va regarder ce best-seller. Hein.
Would you look with me please at the third chapter of Colossians?
On va regarder dans Colossiens au chapitre 3.
It's the first 17 verses.
Les 17 premiers versets.
You're in for a Bible study. Let me warn you.
J'aimerais vous prévenir que là maintenant vous êtes engagé dans une étude biblique.
The message this morning is not like a sermon.
Le message de ce matin, il ne s'agit pas d'un sermon. C'est vraiment une étude biblique.
So it's Colossians 3, 1 through 17.
Donc c'est Colossiens 3, des versets 1 à 17.
In my English translation, the New International Version, if you have the same, you'll see right up at the top, it says Rules for Holy Living.
Et dans ma traduction, dans ma version, qui est la New International Version, donc la version anglaise, vous verrez qu'en fait, il y a un titre où il est écrit Les règles pour une vie sainte. Et si vous voulez, vous pouvez même écrire à côté ou barrer ça et écrire Comment être bon.
Are we all there?
Est-ce qu'on y est tous à Colossiens 3:1?
Since then, you have been raised with Christ.
Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ.
He's coming out of a passage in which he's been discussing that.
Donc, je vais faire une pause ici. En fait, ça suit un passage où il vient de parler de cela.
He's simply talking about the fact that when we are saved, when we receive Jesus Christ as our Savior, we are raised from death, from spiritual death, exactly as Jesus, after his crucifixion and his 3 days in the tomb, was raised. We have been raised with him.
En fait, lorsqu'il nous est dit que nous avons été ressuscités avec le Christ, c'est que lorsque nous avons été sauvés par le Seigneur, lorsque lui, il a été ressuscité d'entre les morts, eh bien nous sommes aussi ressuscités avec lui de cette mort spirituelle.
This is one of Paul's most popular preoccupations, most constant preoccupations, the fact that we have been raised with Christ.
Et en fait, c'est une des constantes préoccupations de Paul, le fait que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Et il va revenir à ce thème et on y reviendra.
Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God.
Cherchez les choses d'en haut, et dans la version anglaise, c'est attachez votre cœur aux choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, attachez votre cœur aux choses d'en haut. Vous avez été ressuscité avec Christ. Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts, et ensuite il est retourné s'asseoir à la droite du Père. Et si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez été ressuscité avec lui. Vous n'êtes plus un citoyen de ce monde.
Le premier chapitre de Hébreux parle des martyrs qui étaient horriblement, horriblement traités. They knew, it says, that they were had another kingdom, another world. They were not citizens here. They were citizens of somewhere else.
Là, il y a un chapitre dans les Hébreux qui nous dit que il y a des martyrs qui ont été persécutés à cause de leur foi, mais ils savaient que en fait leur cité, elle n'était pas dans ce monde, mais qu'elle était dans les lieux célestes. Qu'ils étaient citoyens d'une cité qui est dans les cieux.
He says, set your hearts on things above, and then in verse 2, he says, set your minds on things above.
Donc, il est dit, attachez votre cœur aux choses d'en haut, et ensuite, au verset 2, il est dit, pensez à ce qui est en haut, ou attachez vos pensées à ce qui est en haut.
Not on earthly things.
Non à ce qui est sur la terre.
Turn away from the earth, this is not what it's about, the world is not what it's about. Turn away from it and put your hearts and your thoughts.
Et donc il est dit, mais détournez-vous des choses de la terre, parce que ce n'est pas ça qui est important. Détournez-vous de tout ce qui est terrestre et attachez votre cœur et vos pensées au royaume de Dieu.
Why?
Pourquoi?
Verse 3, for you died.
Verset 3, car vous êtes mort.
Now comes a wonderful, wonderful statement.
Et là vraiment il y a une déclaration merveilleuse.
Your life is now hidden with Christ in God.
Et votre vie, elle est maintenant cachée avec le Christ en Dieu. Pensez-y.
Your life is hidden with Christ in God.
Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu.
Who can touch you? Who can hurt you? Who can do any damage to you at all? Your life is hidden with Christ in God.
Qui peut vous toucher? Qui peut vous faire du mal? Qui peut vous abîmer? Parce que votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme si vous vous trouviez dans un pays inconnu, dans une terre inconnue, et que vous êtes poursuivi par des hommes cruels, diaboliques qui veulent vous faire du mal.
And all of a sudden, a man appears beside you and puts his arm around your shoulders and he says, I'm the king.
Et soudainement, il y a un homme qui se tient à vos côtés et qui met sa main, son bras autour de sur votre épaule et qui vous dit, mais je suis le roi.
You don't have a thing to worry about now.
Tu n'as pas besoin de t'inquiéter maintenant.
I am the king and you are safe with me.
Moi, je suis le roi et avec moi, tu es en sécurité.
And he hides you in his cloak and in his arms. He just envelops you in your hidden.
Et il vous cache, il vous entoure de ses bras et vous êtes caché en lui.
And on top of that, he takes you into his palace, the great fortress.
Et en plus de cela, il vous emmène dans son palace, qui est une grande forteresse. Et il vous dit, tu es avec moi maintenant et rien ne peut aller mal. Au moment où vous avez prié et vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, au moment où vous êtes né de nouveau, eh bien, votre vie, elle est cachée en Christ, avec Christ en Dieu.
The next verse. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory.
Au verset 4, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
This is Paul returning again to that favorite favorite subject of his.
Donc c'est Paul encore une fois qui revient à son sujet favori. Je ne sais pas si vous voulez y aller maintenant, mais je vais lire dans Galates 2 au verset 20.
Because this is Paul talking about exactly the same thing.
Parce que c'est Paul qui parle exactement de la même chose.
Paul est so overcome by the truth of this that he just can't get it out of his mind, out of his heart, and off his lips.
Et Paul, en fait, il est tellement rempli, il est tellement imprégné, en fait, de cette réalité qu'il ne peut pas s'empêcher d'en parler.
Galatians 2:20. This is one to memorize. I have this on my screensaver. For years, whenever my screensaver is on, that's what I'm looking at.
Donc, c'est un verset que je connais par cœur. Et sur mon, comment on appelle ça, vous savez, quand on... Sur mon économiseur d'écran, en fait, c'est... le verset qui est écrit, ça fait des années que j'ai ce verset sur mon économiseur d'écran.
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
So going back to Colossians verse 4, when Christ, who is your life?
Donc au verset 4 dans Colossiens, quand on lit, quand le Christ, votre vie, paraîtra, Christ qui est votre vie,
Christ is your life.
Christ est votre vie.
Galatians 2:20, which we just read.
Galates 2:20 que nous venons juste de lire.
I can jump there again. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me.
Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie et il vit en moi. Lorsque le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous êtes caché en Christ, et lorsque lui, il paraîtra, eh bien, vous paraîtrez aussi, parce que votre vie, elle est cachée en lui, et vous serez dans la gloire, parce que lui, il est dans la gloire.
So what's your response to these wonderful things?
Donc, que devrait être notre réponse, notre réaction à toutes ces choses merveilleuses?
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature.
Faites donc mourir votre nature terrestre.
Put it to death.
Mettez cette nature à mort.
Put to death means put to death.
Et mettre à mort, ça veut dire mettre à mort.
Kill it.
Tuez-la.
Sounds very violent.
Ça a l'air violent.
But violence is the right thing to apply to whatever belongs to your earthly nature.
Mais la violence, c'est vraiment ce qu'il convient d'appliquer à tout ce qui appartient à votre nature terrestre.
Kill it.
Tuez-la.
And then in case there's any confusion, he tells you exactly what he's talking about.
Et ensuite, au cas où il y aurait de la confusion, eh bien, il vous dit en quoi consiste cette nature terrestre.
Sexual immorality.
Donc, en anglais, l'immoralité sexuelle.
Impurity.
L'impureté.
Lust. Evil desires and greed, which is idolatry.
Les passions, en anglais la convoitise, les mauvais désirs, qui est une idolâtrie.
Kill lust.
Tuer la convoitise dans le sens sexuel.
Don't struggle with it, don't fight with it, don't argue with it, just kill it.
Ne vous battez pas, n'essayez pas d'argumenter, de vous débattre, mais juste tuez-la.
Kill impurity.
Tuez l'impureté.
Kill evil desires.
Tuer les mauvais désirs.
And kill greed.
Et tuer aussi greed, le désir de posséder, pas vraiment la gourmandise.
Greed is
cupidité.
Greed is loving something else more than you love God.
En fait, la cupidité, c'est aimer quelque chose d'autre plus que Dieu. Et Paul nous dit dans le nous explique ensuite que c'est de l'idolâtrie.
If I want more and more and more and more money instead of more and more and more God, I'm committing idolatry because I'm more interested in money than I am in him.
Et si je veux de plus en plus d'argent et que je ne veux plus de Dieu, eh bien je suis en train de commettre l'idolâtrie parce que j'aime plus l'argent que Dieu.
Skipping to verse 7.
On va aller au verset 7.
You used to walk in these ways, in the way you once lived. Verse 8. But now you must rid yourselves of all such things as these.
Verset 7. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant vous aussi rejetez tout cela.
Rid yourselves of them, and a good way to do that is
rejetez tout cela ou débarrassez-vous de tout cela, et la meilleure façon de le faire, c'est de tuer ces choses.
Rid yourselves of all such things as these, and then he enumerates them.
Donc, débarrassez-vous de toutes ces choses, et ensuite il fait une énumération.
Anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips.
Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche.
It's interesting that he mentions anger and malice.
Il est intéressant de voir que Paul cite la colère et la malice, la méchanceté.
You know the difference between anger and malice?
Est-ce que vous connaissez la différence entre la colère et la méchanceté?
Anger comes suddenly and goes suddenly.
La colère, ça vient subitement et elle s'en va subitement.
I get angry and I explode in the anger and I say angry things and then it's all the same.
Je suis en colère, j'explose de colère, je dis des choses dans la colère et d'un seul coup je me calme.
But the more I allow anger to have its way with me, the more constant anger becomes, the more I accept it.
Mais plus j'accepte la colère, plus j'accepte qu'elle me domine.
And eventually anger becomes more and more and more of a permanent occupant in me.
Et au bout d'un moment, en fait, la colère de plus en plus, elle va devenir un occupant permanent en moi.
And it just comes in and settles down and makes itself at home.
Et en fait, elle va venir et elle va commencer à s'installer et à faire comme si elle était chez elle.
And it is so constant and so steady that its name changes and it becomes malice.
Et en fait, elle est tellement constante, elle est tellement régulière que son nom vient de changer et elle va s'appeler malice ou méchanceté.
Malice is a way of thinking. It's a way of responding. It's a way of looking at the world.
La malice, la méchanceté, c'est une façon de penser, c'est une façon de réagir, une façon de voir le monde.
He also says to rid ourselves of filthy language from your lips.
Il nous est aussi demandé de nous débarrasser des paroles grossières qui sortiraient de notre bouche. Et il ne parle pas juste de ce à quoi nous pensons. Il n'est pas en train de parler de gros mots.
The obscenities.
Les obscénités.
God hates obscenities.
Dieu, il haït, il hait ces obscénités.
But there are other kinds of filthy language that he hates much more.
Mais il y a d'autres sortes de paroles grossières ou de sales langages qu'il n'aime pas.
Filthy language is the language the enemy speaks.
Les paroles grossières, en anglais c'est plutôt langage sale, c'est ce que l'ennemi parle en fait.
Filthy language is the language of unforgiveness.
Parler salement, c'est par exemple parler le langage du non-pardon.
The language of vengeance.
Le langage de la vengeance.
The language of fault finding.
Fault finding. Ah oui, de trouver la faute, de chercher la faute.
The language of accusation.
C'est aussi le langage de l'accusation.
Romans 12 identifies Satan by name as the accuser.
Et dans Romains 12, eh bien, Satan est appelé l'accusateur.
When we accuse and find fault, we are speaking the language of the devil.
Lorsque nous accusons ou lorsque nous cherchons la faute en l'autre, nous sommes en train de parler la langue du diable. Le Saint-Esprit, au travers de Paul, nous demande de nous débarrasser de cela, de tuer cela. Ne parlez pas la langue du diable.
Don't help the devil do his work.
N'aidez pas le diable à faire son travail.
Don't accuse.
N'accusez pas.
What's the opposite of accusing, accusation?
Quel est l'opposé de l'accusation?
Forgiveness.
Le pardon.
I think possibly one, apart from the crucifixion, one of the best examples of the difference, the contrast between forgiveness and accusation in the Bible is in John 8.
Je crois que si ce n'est l'exemple de la crucifixion, le meilleur exemple que nous avons dans l'opposition qu'il y a entre le pardon et l'accusation, c'est ce qu'on trouve dans Jean 8.
That's a story about, we're not going to talk about it, it would be several messages, you don't need to look it up now, it's a story about the woman taken in adultery, who was brought to Jesus surrounded by religious leaders who were accusing her, and Jesus responds to that with forgiveness.
Et en fait, on n'a pas le temps de regarder à cette histoire en détail parce qu'on pourrait prêcher des tas de sermons là-dessus et donc on ne va même pas y aller. Mais il s'agit donc de cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère et qui est amenée à Jésus par des leaders religieux. Et en fait, la réaction de Jésus face à cette femme, c'est le pardon.
Verse 9, do not lie to each other.
Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres.
Do not lie to each other.
Ne mentez pas les uns aux autres.
That's more the devil's language.
Ça, c'est, il s'agit encore de la langue du diable.
The Bible tells us that the devil is the father of lies.
La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge.
He can't speak without lying.
Il ne peut pas parler sans mentir.
He can't speak truthfully if he tries.
Et même s'il essaye, il ne peut pas parler avec vérité.
Don't lie.
Ne mentez pas.
Don't help the devil do his work.
N'aidez pas le diable à faire son travail.
Do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques.
He's using the imagery of clothing here. He's gone from killing and destroying and ridding to clothing.
Là, il utilise l'illustration des vêtements, de se revêtir, de s'habiller. En fait, il vient de passer de l'image de tuer, de détruire, de se débarrasser à l'image des habits.
You had an old self that clothed you.
Vous aviez une vieille nature, un vieux moi dont vous étiez revêtu. C'était comme en fait un manteau.
But it was a disgusting coat.
Mais c'était vraiment un manteau dégoûtant.
It was torn, it was filthy, it smelled unbelievable.
Il était déchiré, il était sale et il puait.
It was disgusting.
Il était dégoûtant.
And you walked around in it.
Et vous marchiez ici et là avec ce manteau.
You lived in it.
Et vous viviez dans ce manteau.
You said to people, look at my lovely coat. It's a lovely coat.
Et
you have a lovely coat.
Et vous regardiez les gens et vous leur disiez, mais regardez comme il est beau mon manteau. Mais toi aussi tu as un beau manteau.
And in the nostrils of God, it stank.
Mais aux narines de Dieu, cela puait.
And the Holy Spirit, writing his book on how to be good through Paul, says,
et le Saint-Esprit qui inspire Paul lorsqu'il écrit là, il lui dit, mais débarrasse-toi de ce manteau.
Since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self.
En anglais, puisque vous avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et que vous avez revêtu la nature nouvelle ou le moi nouveau.
You took off this filthy garment and you threw it away.
Vous vous êtes débarrassé de ce sale vêtement et vous l'avez jeté au loin. Et vous vous retrouvez là et vous dites, mais je n'ai plus de vêtements. Et vous voyez Jésus qui se tient là, comme ça. Et il vous dit, mets-le.
Put on your new self.
Revêtez-vous de votre nouveau moi.
The new self I offer you at the instant of your salvation.
Le nouveau moi ou la nouvelle nature, c'est ce que je vous offre à l'instant même de votre salut.
And he goes on, put on the new self, and then he describes it, which is being renewed in knowledge and the image of its creator.
Revêtez-vous donc de la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cette nouvelle nature que vous avez revêtue comme un manteau, elle n'est pas parfaite. Mais c'est vraiment un merveilleux commencement.
It's not complete, but everything of it that there is is perfect.
Elle n'est pas encore complète, mais tout ce qui peut la comporter est parfait.
It sparkles, it glistens.
Elle brille.
Everybody in the world who looks at it says, "What can I get to put like that?"
Et tous les gens dans le monde qui regardent à cette veste, ce vêtement, ils se disent, mais où est-ce que je peux me procurer un tel manteau? Elle est constamment renouvelée, elle est constamment améliorée.
Renewed in knowledge.
Elle est renouvelée dans la connaissance.
In the knowledge of God and the awareness of God.
Elle est renouvelée dans la connaissance de Dieu, dans la conscience de Dieu.
It's being renewed in knowledge in the image of its creator.
Elle est renouvelée en vue d'une pleine connaissance selon l'image du Créateur.
Genesis 1, Father, Son, and Holy Spirit say, "Let's make man in our image."
Dans Genèse 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui disent, faisons l'homme à notre image.
Let's make man in our likeness.
Faisons l'homme à notre ressemblance.
There we are, here we are today, having received Jesus Christ as our Savior. And we are being renewed in knowledge in the image of our Creator.
Et nous nous retrouvons ici, aujourd'hui, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Et donc nous avons cette nature nouvelle dans la pleine connaissance de l'image, selon l'image du Créateur.
Next verse starts with the word here.
Et le... Hang on.
Here there is no Greek.
Oui, alors dans la version anglaise, le verset suivant, il commence avec le mot « ici ». Vous devez vous rendre compte que de semaine en semaine, ce qui est développé ici, c'est la version française selon Yann.
Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all.
Donc ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous.
By here he means the church.
Et en disant ici, il veut dire l'Église.
He's writing to Christians.
Il l'écrit, il s'adresse à des chrétiens.
He's not writing to the world.
Il n'écrit pas au monde.
He's writing to people like us.
Et en fait, il est en train d'écrire à des gens comme nous.
Here, in the church, in the body.
Et il dit ici, dans l'Église, dans le corps,
not necessarily in the world.
Pas nécessairement dans le monde.
There is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free.
Il n'y a ni juif, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre.
These are distinctions the world sees.
Ça, ce sont des distinctions que le monde voit.
And they produce all sorts of persecutions and evil doings.
Et cela produit toutes sortes de persécutions et d'actions mauvaises.
But Christ only sees two distinctions.
Mais Christ voit seulement deux distinctions.
Those who are for him and those who are against him.
Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui.
Children of God and children of the devil.
Les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Children of obedience, children of disobedience.
Les enfants qui obéissent et les enfants qui désobéissent.
Smart, dumb, rich, poor, tall, short, fat, thin, he doesn't see any of that.
Donc qu'il soit intelligent, qu'il soit stupide, qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, il voit rien de tout ça.
Because Christ is all and is in all.
Parce que Christ est tout et il est en tous.
Another echo of Galatians 2:20. Christ is in all. I don't live, Paul says, Christ lives in me. Christ lives in every Christian.
Et c'est encore un écho à Galates 2:20, Christ est en tous. Et Paul qui dit, mais je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi, et Christ, il vit en chaque croyant.
Therefore, as God's chosen people,
ainsi donc, comme des élus de Dieu,
well, as God's chosen people,
comme des élus de Dieu, choisis par Dieu,
notice how God, the Holy Spirit, takes some of the most astonishing and wonderful and just overwhelming phrases that have ever been spoken or written and just puts them in the middle of a sentence between a couple of commas. It's just, what, as if they were nothing.
Est-ce que vous remarquez comment Paul, en fait, il prend quelque chose de vraiment étonnant, de vraiment merveilleux, de vraiment époustouflant, et en fait, il la met au milieu de deux commentaires importants, et il place cette déclaration comme si finalement c'était quelque chose de peu important ou de commun.
He's assuming that we already know this.
Et en fait, Paul suppose que on sait déjà tout ça.
You already know your chosen people.
Et vous savez déjà que vous êtes des gens choisis.
You already know that before the creation of the world, before there was time, before there was space, Jesus, the Holy Spirit, the Father, God Almighty, knew you.
Et vous savez déjà que avant la création du monde, avant le temps, avant l'espace, Jésus, le Saint-Esprit, le Père, vous connaissez déjà.
He knew you, he chose you.
Il vous connaissait, il vous a choisi.
He looked around and said, you. I'll take you, and you and you, and you and you and you and you. And he didn't say you, he said the names. He knew every single person's name. He even knows the names of the stars. He named every single one of the billion uncountable stars. He named us all. He knows all our names, and he chose us.
Wait for me. Et donc il a regardé autour de lui et en fait il a dit toi, et en fait il a pas simplement dit toi, mais il a dit je te connais par ton nom. Et Dieu, il a aussi donné un nom à chaque étoile, aux milliards d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Donc il a appelé chaque chose par son nom et nous a choisi. Mais il y a deux personnes qui ont dit amen.
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves.
Donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous.
Still talking about putting on clothes.
Il est encore en train de parler de se mettre des vêtements.
He likes to express very deep and almost incomprehensible spiritual truths in language that everybody can understand.
Et en fait, il aime parler de vérités spirituelles qui sont tellement profondes et presque incompréhensibles en utilisant un langage qui peut être compris par tous.
We all wear clothes.
Et tous nous mettons des vêtements.
Well, I guess all of us wear clothes.
Enfin, je pense que, en tout cas, chacun d'entre nous ici, on met des vêtements.
Most of the time.
La plupart du temps.
Clothe yourselves with. And it starts with five things: compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
Revêtez-vous, et donc il y a cinq choses qui suivent: de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Clothe yourself with these articles of clothing.
Habillez-vous, mettez ces vêtements-là.
Now, to prove my point, I thought very briefly of bringing five very different articles of clothing and putting them on.
Et en fait, pour illustrer ce point-là, j'ai pensé à amener cinq vêtements différents et à m'habiller devant vous. Donc imaginez-vous que j'ai mis deux t-shirts, il y en a un qui est rouge, l'autre qui est jaune.
A couple of shirts.
Deux chemises.
Completely different styles and colors.
Qui soient complètement différentes, pas le même style, pas la même couleur.
Maybe a sweater.
Peut-être un sweatshirt.
I'd look pretty silly, wouldn't I?
J'aurais eu l'air stupide. Hein? J'ai déjà l'air stupide, mais j'aurais eu l'air encore plus stupide.
Okay. Stay with me.
Restez avec moi.
Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
Revêtez-vous, habillez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Remember, this is how to be good.
Rappelez-vous, ça c'est comment être bon.
Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another.
Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement en anglais. Pardonnez-vous.
That's the sixth garment, forgiveness.
Ça, c'est le sixième vêtement, le pardon.
Put on the first five and now his number six is forgiveness.
Mettez les cinq premiers et le sixième, c'est le pardon.
Bear with each other.
Supportez-vous les uns les autres.
Put up with each other.
Accordez-vous les uns les autres.
I mean, we all have reason to feel that each other are absolutely insufferable from time to time. But
Nous avons tous des raisons de nous trouver insupportables les uns les autres, mais supportez-vous, tolérez-vous, accordez-vous les uns avec les autres.
Forgive as the Lord forgave you.
Donc pardonnez-vous comme le Christ, comme le Seigneur vous a pardonné.
Verse 14. I'm now standing here and I've got six different kinds of upper garment on me, and you're thinking, let him in.
Donc imaginez-vous, moi, je suis en train de me tenir devant vous et j'ai ces six vêtements sur moi et vous vous dites, mais qui l'a laissé entrer?
Verse 14. And over all these virtues, put on love.
Verset 14, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour.
Love, a robe. It's like an old Jewish Hebrew mantle that just fits over your whole body very, very loosely.
Et en fait, c'est l'amour qui vous englobe. Et en fait, on pourrait penser à les vêtements qu'on trouvait chez les Hébreux dans l'ancien temps. C'est comme vraiment une grande veste qui est sur vous complètement et qui déborde.
Basically, it was two large pieces of cloth sewed together. Holding the top for your head, slits in the sides for your arms.
En fait, c'était comme deux grands morceaux de tissu qui étaient joints l'un à l'autre. Et il y avait juste une ouverture pour votre tête et deux ouvertures pour vos bras.
Sort of like a poncho, if you know what that is.
Comme un poncho, vous connaissez.
But it's very loose.
Mais on s'y sent bien, on y est libre.
You could carry a goat under it, and nobody would know you had a goat in there.
A goat? En fait, vous pourriez avoir une chèvre sous votre manteau et personne ne le remarquerait.
So when I've got all these six silly-looking garments under me, this great robe of love covers them. I don't look silly anymore.
Et en fait, donc lorsque j'ai ces six vêtements qui me donnent un peu un air stupide, eh bien, je suis revêtu, je suis recouvert de ce grand vêtement qui est l'amour et je n'ai plus l'air stupide. Mais je les ai toujours sur moi. Et cela m'affecte encore. Et cela se voit dans mon comportement, dans la manière dont je parle. Le pardon, l'humilité, la bonté, la douceur, toutes ces choses sont toujours là. Et que fait donc ce grand vêtement d'amour que j'ai remis sur moi,
which binds them all together in perfect unity.
Bien cela lie toutes ces choses dans une unité parfaite.
So the compassion, kindness, humility, gentleness, patience and forgiveness all become one under this cloak of love.
Donc la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, eh bien toutes ces vertus deviennent une dans l'unité de l'amour. Et ce vêtement d'amour, il fait encore autre chose. Cela me protège de l'orgueil. Et en réalité, je préférerais me débarrasser de ce vêtement d'amour et que la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience puissent se voir et que les gens puissent se dire en me voyant, ah là là, ce James, n'est-ce pas la personne qui a le plus de compassion, le plus de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, n'est-il pas merveilleux?
Put on this cloak of love and all people see our love. That's it. That's the totality. God is love.
Mais si vous mettez le vêtement d'amour, eh bien, les gens ne verront plus que l'amour, il n'y aura que ça. Et Dieu est amour.
Il
faut que je termine.
I'll skip down to 16. Let the word of Christ dwell in you richly.
Je vais aller au verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement.
And I'll finish with this one.
Et je vais terminer avec ça.
Let the word of God dwell in you.
Que la parole de Dieu demeure en vous.
This is the word of God.
Donc ça, c'est la parole de Dieu.
Let God's word dwell in you.
Que la parole de Dieu, elle demeure en vous. Comment faire pour que la parole de Dieu demeure en vous, habite en vous, si vous ne la lisez pas, si vous ne l'avez pas? On ne parle pas simplement de la parole, mais on parle aussi de la parole des mots, on parle de la parole incarnée.
The first verse of the Gospel of John says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Et le premier verset dans l'évangile de Jean nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Let the word dwell in you richly.
Que la parole demeure, habite en vous richement.
The word doesn't dwell in you as a visitor or as a tenant or as a servant.
La parole ne
It's his house.
C'est sa maison, c'est chez lui.
The Bible says you have been bought at a price. You belong to Jesus.
Et la Bible nous dit vous avez été racheté à un grand prix. Vous appartenez à Jésus.
He dwells in you as the owner.
Il habite en vous comme étant le propriétaire.
Not because he likes to own things, but because he's better at it than you are in me.
Ce n'est pas parce qu'il aime posséder les choses, mais c'est parce qu'il est bien plus doué pour cela que nous ne pouvons l'être.
And he dwells in you in us richly.
Et il habite en nous richement, pas de manière pas pauvrement. Il a des richesses inimaginables dans ses valises qu'il va emmener avec lui dans sa résidence. Des richesses. Comment être bon? Comment vivre des vies saintes? Comment être saint? Personne d'entre nous ne sera saint ou bon dans cette vie complètement. Mais il est bon de savoir comment le faire. Et nous pouvons essayer. Et le Saint-Esprit nous aidera.
Amen. If anybody would like, we'll have a couple of minutes for prayer before the next meeting. If anybody would like prayer.
Avant la prochaine la réunion qui arrive, on va avoir un petit temps de prière. Si quelqu'un aimerait qu'on prie pour lui.
For healing, to be baptized in the Holy Spirit, to be saved, for salvation.
Pour la guérison, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, pour le salut, pour être sauvé.
Please come up right now, and there'll be people here to pray with you.
Venez maintenant, et il y aura des gens qui vont prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.